Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orion et ce soir on parlera de l'éducation par le sport. Oui, le sport comme outil pédagogique d'éducation et d'insertion. Alors de nombreuses associations travaillent déjà avec les collectivités locales et essentiellement les missions locales. Ces associations interviennent dans la mise en place des politiques locales de cohésion sociale par le sport. Alors de nombreuses expériences également, il faut le dire, nous démontrent aujourd'hui et nous confirment que le sport est un excellent vecteur de transmission. Des experts avec nous pour nous éclairer, vous éclairer à mes auditeurs sur leur expérience. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Pierre-Hervé Gauthier qui préside le comité d'association philanthropique pour l'éducation par le sport et il est aussi le fondateur et président de la fondation RA Robert Abdesalem. Alors on écoutera par téléphone le regard et le décryptage de David Blou qui est directeur de Sport Sans Frontières, de Julien Jappert qui est directeur de Sport et Citoyenneté et enfin on écoutera également les apprentis d'Auteuil avec Étienne Aubin qui est directeur du centre d'éducation de Saint-Noir. Bonsoir monsieur Pierre-Hervé Gauthier et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir et merci de m'avoir invité.
Alors, je le disais, vous-même, ancien sportif.
Oh, très modeste, j'aime beaucoup le sport et j'ai une culture familiale sportive, mais essentiellement dans le tennis. Je suis simplement un simple classier de deuxième série, mais disons que dans toute ma vie, jeune et aujourd'hui encore, le sport a été un élément très important.
Et aujourd'hui, un domaine de compétences, puisque vous avez créé ce comité d'association philanthropique pour l'éducation par le sport, et vous avez même publié un guide avec 100 idées pour l'éducation par le sport. Alors, de quoi s'agit-il ? Dites-nous.
Oui, alors nous l'avons fait avec quelqu'un que vous allez interviewer tout à l'heure, qui est Sport et Citoyenneté, Julien Jappert, et notamment un étudiant. L'idée, en fait, de CAPES, c'est de rassembler une vingtaine d'associations, et peut-être au-delà, qui sont complètement impliquées au quotidien, avec des actions concrètes, dans l'éducation par le sport. Et on a voulu apporter comme première contribution ce livre, ce guide, si vous voulez, qui permet de mettre en avant quels sont les moyens pour mieux développer la pratique du sport en France, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de éléments qui ne favorise pas cette pratique de l'éducation.
Alors, je suis tenté de vous demander, monsieur Pierre-Hervé Gauthier, pourquoi est-ce que la France est en retard ?
Je crois que c'est un problème essentiellement culturel. C'est un problème culturel parce que aujourd'hui, vous le savez, le sport n'est pas bien mis en avant, n'est pas considéré, et quelqu'un qui fait du sport de haut niveau ou même du sport de compétition est rejeté un petit peu par la société par rapport à une culture, je dirais, de grandes écoles. Et je ne vais pas les citer, mais elles sont importantes en France.
Oui.
Et je crois qu'on ne sait pas aujourd'hui, au contraire des États-Unis, du Canada ou des pays nordiques en Europe, mettre en avant et donner une place suffisamment importante des gens qui pratiquent le sport, que ce soit du haut niveau, le sport de loisirs ou le sport de détente. Et c'est vraiment très dommage parce qu'on verra peut-être au cours de cet entretien qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont reconnues dans le sport et qu'en même temps, l'éducation actuelle en France, le système éducatif ne remplit pas son rôle.
Alors justement, la transition est toute faite, j'ai envie de dire, monsieur Gauthier. Alors, le système éducatif et ses défaillances, c'est un thème qui s'invite aujourd'hui dans le débat politique, échéance électorale oblige. Faut-il revoir, j'ai envie de dire, toute la copie ? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre système éducatif ?
Je crois que pour essayer de répondre concrètement à cette question qui est vraiment fondamentale, il faut repartir du rôle de l'école telle qu'elle est définie. Et nous verrons qu'à travers ces trois rôles essentiels que je vais vous indiquer, il y a carence. Le premier rôle, c'est la transmission des connaissances et du savoir-faire, c'est-à-dire du comportement. Le deuxième rôle, c'est former l'homme et le citoyen. Et le troisième rôle, c'est de préparer l'insertion sociale et professionnelle. Eh bien, on voit qu'au regard de ces trois rôles essentiels, la réussite de ce objectif n'est pas atteinte. Il y a un échec scolaire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire
chaque année
sans apprentissage et sans formation. Vous savez que les jeunes de 15 à 25 ans sont en général à 25% de taux de chômage. Donc on ne peut pas dire que le système scolaire soit une réussite malgré l'effort budgétaire qui est fait. Donc ce n'est pas un problème de budget, puisque le budget de l'éducation nationale est un des premiers budgets avec 61 milliards de francs.
Et par rapport mal utilisé.
Ouais. Et je crois que c'est plutôt un problème qualitatif. Certes, il y a des initiatives positives qui sont prises aujourd'hui par le ministère, notamment un test pédagogique de mettre 250 établissements l'après-midi avec la possibilité de pratiquer du sport. Mais je crois que
c'était le débat sur les nouveaux rythmes scolaires.
Absolument. Ouais. Donc il y a un effort qui est fait, il y a quelques orientations qui sont bonnes, mais je crois que c'est dans l'ensemble de la société que tous les acteurs ne sont pas assez impliqués dans la promotion et la pratique du sport, je dirais, au niveau de l'école, au niveau scolaire et au niveau universitaire.
Alors avant de poser la question justement à M. Julien Jappert, qui représente, il faut le dire, un think tank qui développe toute une réflexion sur ça, il est également au conseiller auprès du ministre de l'Éducation.
Absolument, il a été nommé récemment et c'est une très bonne chose. C'est quelqu'un qui a réfléchi depuis 3 ans au niveau européen et français. Nous avons beaucoup travaillé ensemble et notamment le CAPES a été initié avec lui et notamment aussi ce livre des 100 idées pour l'éducation par le sport.
Alors, on va peut-être dire un mot sur ces 100 idées hein, pour éclairer un peu nos auditeurs. Alors, quelques-unes en l'occurrence.
Oui, on va peut-être prendre
les plus importantes.
Voilà. Alors, on a fait un petit classement. Il y a une idée qui nous est très chère, qui est toute simple. C'est recréer ou créer la Journée nationale du sport. De même qu'il y a une journée du patrimoine qui permet de rassembler 3 millions de personnes en général à la rentrée. Il serait extrêmement bénéfique, sur le plan de la médiatisation du sport, de créer l'équivalent, une journée nationale du sport, qui serait au début septembre, au moment où les jeunes s'inscrivent dans les différentes associations.
Donc une journée nationale du sport.
Médiatisée, promue par le gouvernement, et notamment par le ministère, à la fois de l'éducation et le ministère du sport.
Ouais.
Une deuxième idée, et qui est partiellement mise en place aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais, le test autour de 200 établissements, c'est réorganiser les emplois du temps scolaire de l'école, des enfants à l'école primaire et au lycée.
Et ça, c'est le débat, hein, puisqu'il y a un
test
les rythmes scolaires, les nouveaux rythmes scolaires.
Absolument.
Et donc, il y a une expérimentation en cours. Hein.
Ça serait de permettre, au moins dans 2 ou 3 après-midi, de permettre la pratique du sport pour ces jeunes étudiants.
Mais on a l'impression, par rapport au temps scolaire, que la transmission ne se fait pas avec plaisir aujourd'hui. Et donc, elle est un peu violente, d'où, effectivement, non-réceptivité, mauvaise transmission, et puis conséquence, bien sûr, échec scolaire.
Elle est un peu subie, elle n'est pas, en effet, dans l'ordre du plaisir et de la détente. C'est dommage, parce que c'est au contraire une activité ludique qui permet aux jeunes de s'épanouir, de sortir de son emprisonnement scolaire et de la pression scolaire. Et c'est un facteur d'épanouissement et de motivation supplémentaire. Et ça devrait être vécu, au contraire, comme un grand plaisir et une grande source de respiration et un temps de respiration par rapport au temps scolaire, je dirais, qui donne la pression par rapport aux notes qui sont données dans l'école.
Alors, si vous permettez, donc, nous allons, je vous le disais en début d'émission, entrer en contact avec Julien Jappert, qui est directeur de l'association Sport et Citoyenneté. Et je crois savoir que nous l'avons en ligne avec nous. Monsieur Julien Jappert, bonjour, ou plutôt bonsoir.
Oui, bonjour, très heureux de me joindre à vous.
Et bien pareillement, on le disait justement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur sport et citoyenneté d'une part? Bon, on sait que c'est un think tank qui est un groupe donc de réflexion et vous travaillez beaucoup justement sur le sport comme outil pédagogique et comme outil surtout de transmission, c'est bien cela?
Oui, tout à fait, donc sport et citoyenneté c'est une association qui a une vocation européenne. Donc, il réunit un certain nombre de scientifiques en France et en Europe, des scientifiques pluridisciplinaires. C'est vraiment notre intention de soumettre des questions citoyennes liées au sport, comme par exemple l'éducation ou l'insertion par le sport, à des personnalités qualifiées, mais de divers horizons, pour essayer d'avoir une matière qui soit assez complète et qu'on puisse, nous, après, soumettre à des décideurs politiques et à des décideurs, évidemment, aussi du mouvement sportif.
Alors, j'ai envie de dire que vous êtes bien placé aujourd'hui au sein du ministère de l'Éducation. Alors, juste un mot sur votre discours. Votre discours consiste à dire, en fait, qu'en France, rien n'est fait en matière d'éducation par le sport. Pourquoi cette méthode qui a prouvé, faut le dire, son efficacité ailleurs, dans d'autres pays voisins et dans le monde, n'est pas appliquée chez nous, en France?
Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on dit, que rien n'est fait. Il y a beaucoup d'actions dans le domaine de l'éducation par le sport qui sont faites en France, et des actions remarquables.
Oui.
J'imagine que avec les différentes personnes autour de vous, vous avez pu en évoquer quelques-unes.
Mm-hmm.
C'est des actions. On a beaucoup d'associations, et par exemple, puisqu'on a Monsieur Pierre-Hervé Gauthier autour de la table, et je pense également un représentant de Sports sans frontières, on a des actions qui sont assez isolées.
Oui.
Et c'est un petit peu le problème en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique globale d'éducation par le sport.
Ben, c'est ce que disait en fait Monsieur Pierre-Hervé Gauthier. Vous pouvez vous parler, Monsieur Hervé Gauthier.
Oui, bonjour Juliane.
Bonjour Pierre-Hervé.
Je suis content que tu participes à cette
émission. J'imagine qu'on partage le même bilan, le même Absolument. Diagnostic. Des actions remarquables, des actions isolées, pas de politique générale et de grande... orientations stratégiques effectuées soit par l'État, soit même par le secteur privé ou le mouvement sportif.
Et enfin, c'est dû à quoi ? Une absence de politique volontariste, en un mot ?
Oui, je pense qu'il y a une absence de politique volontariste. Alors,
oui.
Il faut se demander quand même ce qui peut être réellement fait dans le domaine de l'éducation par le sport. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup à l'évaluation de ces politiques. Parce que longtemps, il a été fait, sans vouloir caricaturer et schématiser, une sorte de saupoudrage financier, c'est-à-dire que dans les quartiers sensibles, on a construit des stades multisports, et puis on a dit aux gamins, vous pouvez jouer, faites du sport, ça vous donnera des valeurs, ça vous cadrera, vous pourrez... dépenser votre agressivité, vous pourrez respecter la règle.
Mais donc sans cadrer cela, sans cadrage en fait.
Voilà, mais on a vu finalement oui. que ça avait ses limites, c'est-à-dire mm-hmm. construire un stade multisport dans un quartier sensible, ça a ses limites si il n'y a pas un accompagnement derrière de personnes qualifiées.
Est-ce que c'est coûteux justement parce que effectivement il s'agit des formateurs en l'occurrence hein?
Alors le stade en soi c'est pas très coûteux, faire un stade multisport.
Non, c'est pas le stade. J'ai bien dit les formateurs surtout.
Et oui, voilà, les collectivités ont des moyens. Hein. Aujourd'hui, c'est les collectivités en France qui ont la possibilité de dépenser le plus d'argent dans le domaine du sport.
Oui.
Donc les collectivités ont les moyens, mais uniquement construire un stade c'est pas suffisant. Donc il y a un effort supplémentaire. Et là vous avez raison, il est assez conséquent pour justement autour de ces lieux sportifs avoir des encadrants, des éducateurs spécialisés. Voir des psychologues, donc mettre tout un processus d'encadrement de ces personnes qui pourraient avoir accès à ces valeurs éducatives par le sport.
Oui.
Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui.
Alors restez avec nous, monsieur Julien Jappert, juste un mot avec monsieur Pierre-Hervé Gauthier.
Ce que dit Julien, c'est que je crois qu'il y a aussi un problème culturel, c'est pas simplement un problème de moyens. C'est que le sport aujourd'hui en France, culturellement, de par son histoire, n'est pas assez promu, n'est pas assez valorisé, et que donc, que ce soit un éducateur d'éducation physique, c'est pas quelqu'un qui est comme un professeur de mathématiques aussi bien reconnu.
Ouais.
Et c'est bien dommage que cette reconnaissance de ce type de pédagogie ne soit pas aussi forte en France, parce que c'est par eux que ça transmet
ouais.
la pratique sportive et la culture sportive.
Mmh.
Oui, donc, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Aujourd'hui, on le voit bien dans les réunions parents-prof.
Oui, oui, tout à fait.
Le professeur de PS, c'est lui qu'on ne va pas voir.
C'est accessoire, en fait. Voilà, le sport est perçu ainsi.
C'est lui qui a le moins bon coefficient. À l'université, c'est lui qui est facultatif en France. Mmh. Ça, c'est extraordinaire.
Oui.
Hein.
Je voudrais profiter de cette occasion, puisque j'ai un fils qui est aux États-Unis et qui est un champion de golf, que le système scolaire et universitaire américain est complètement différent. Je vais vous donner juste un exemple qu'il m'a raconté. Là, il vient de retourner aux États-Unis. Pour être un grand professionnel en basket ou en football américain, il faut avoir un diplôme universitaire. Alors qu'en France, c'est inimaginable. Donc, je voudrais qu'on a... Aux États-Unis, le problème est complètement renversé, puisqu'on met la priorité sur le diplôme universitaire pour être un professionnel dans le sport. Jamais en France, on fera une chose pareille, quoi. En tout cas,
Complètement.
Donc, alors, par rapport aux pays voisins et ailleurs aussi, un peu plus loin, parce que vous étiez en train de citer l'exemple des États-Unis, qu'est-ce qui se fait à côté de chez nous ?
Alors, en Allemagne, Julien pourrait peut-être en parler, mais je peux dire aussi
oui,
un
Monsieur
mot,
Jappert,
c'est qu'il y a une
oui.
expérience très forte d'essayer depuis 5 ans de faire toutes les après-midi une pratique sportive aux étudiants. Alors le bilan est peut-être mitigé, mais il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. Je pense que sur le plan de la motivation et sur le plan de l'apprentissage d'un certain nombre de valeurs, et je voudrais peut-être qu'on dise avec Julien quelques mots sur ces valeurs essentielles
qui prépare un homme à la vie active, car c'est, on le disait tout à l'heure en début d'entretien, quel est le rôle de l'école, quel est le rôle de l'université si ce n'est pas préparer un jeune homme en devenir, à s'intégrer dans la vie sociale.
Alors pourquoi est-ce que justement aujourd'hui on a vu, il y a des enfants qui sont en grande difficulté, en l'occurrence dans ces quartiers des difficiles ?
Ils sont en difficulté et c'est là où le rôle des associations est extrêmement important, parce que si je prends quelques valeurs comme le respect des autres, le respect de l'effort, la solidarité, le sentiment d'appartenance, etc. Ces valeurs sont véhiculées à travers ces différentes activités que font très bien les associations.
Monsieur Jappert, aujourd'hui nous avons vu ces enfants en grande difficulté sont dans une position de rejet du système éducatif. Est-ce que ce sont les enfants qui ne vont pas bien ou alors c'est plutôt l'inverse, c'est le système éducatif qui ne va pas bien ?
Non, c'est sûrement les deux. Mais pour insister encore, ces enfants, vous dites qu'ils sont dans le rejet du système éducatif, mais souvent, ils ne sont pas dans le rejet de certaines activités comme les activités
tout
physiques et sportives. Donc c'est bien par là, encore une fois, par le prof d'éducation physique et sportive, par les associations sportives et toutes les associations d'éducation par le sport, qu'on va pouvoir accrocher ce gamin dans un cadre différent et qu'on va pouvoir lui véhiculer des notions qui devraient être véhiculées dans d'autres matières. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre Hervé. Les États-Unis et d'autres pays sont en avance sur nous.
Alors, moi, je voudrais juste qu'on démontre.
J'aimerais juste ajouter une chose. Notre ministre, quand même, de l'Éducation, Luc Chatel, a lancé un processus expérimental
sur les nouveaux rythmes scolaires
et collèges.
Oui.
Et les résultats sont en train de tomber. Les enfants et même les enfants dans
les résultats sont en train de tomber. Vous pouvez peut-être nous donner en avant-première les quelques résultats qui tombent sur les nouveaux rythmes scolaires qui sont au stade expérimental.
Le ministère communiquait là-dessus, mais la grande tendance et qui est vraiment intéressante, c'est que quand on augmente le nombre d'heures d'éducation physique et sportive pour les gamins, ils arrivent à des résultats scolaires dans les autres matières meilleurs. C'est ça qui est intéressant.
C'est intéressant, mais en même temps, est-ce qu'on peut l'expliciter ? Il y a une causalité qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce à dire que les enfants sont plus réceptifs quand ils font beaucoup d'exercices sportifs ?
Ça amène un équilibre certain.
Absolument. Je crois, pour compléter Juliane, la concentration, la confiance en soi, par exemple, que donne la pratique sportive, sont des éléments essentiels lorsqu'ensuite il faut travailler sur les maths, la géographie, la physique, etc.
Oui.
Donc, on voit bien que certains exercices de pratique sportive ou éducation physique favorisent cet esprit.
La confiance en soi,
favorisent le travail aussi.
Et l'intégration aussi.
Donc tout ça, c'est un complément et c'est un tout qui permet de construire l'individu qui est en train de se construire pour rentrer dans la société.
Alors quelles sont vos vos recommandations avant de la coupure publicitaire, monsieur Julien Jappert ?
Alors, je crois que on a fait l'effort avec Pierre-Hervé Gauthier, d'essayer de réunir des associations d'éducation par le sport. Alors, des associations qui ont vraiment des actions concrètes de terrain, qui ne sont pas du tout dans ce saupoudrage. Alors, ça, c'est le pire. Ce saupoudrage financier, il y a même des associations qui saupoudrent elles-mêmes des subventions. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on bannit. Mais nous, on est vraiment dans la recherche de complémentarité entre ces associations. Et effectivement, on a fait 100 propositions. Qu'on adresse à travers un petit livre. Je ne sais pas si Pierre Hervé a eu le temps.
Tout à fait, nous allons développer la deuxième partie justement de ces recommandations. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. On espère en tout cas vous recevoir un jour dans nos studios, monsieur Julien Jappert.
Ce sera avec plaisir. Bonne émission.
Merci et on retrouve nos autres experts par téléphone après la pause publicitaire. À tout à l'heure. We'll be right back. Et retour sur le plateau de Sans Transition. Je vous disais, ce soir, il s'agit d'éducation par le sport avec nos experts sur le plateau. Monsieur Pierre-Hervé Gauthier, président du comité des associations philanthropiques pour l'éducation par le sport. On avait écouté il y a un moment donc monsieur Julien Jappet. Et nous avons en ligne avec nous le directeur de l'association Sport Sans Frontières, monsieur David Dogbe. Bonsoir.
Bonjour.
Alors, monsieur David Bogue, je vous le disais, vous représentez une association humanitaire qui existe depuis plus de 10 ans, 12 ans plus exactement. Vous travaillez beaucoup justement sur cette problématique, c'est-à-dire la transmission par le sport. J'ai envie de vous dire en quoi le sport peut effectivement être un outil privilégié dans la transmission.
Alors, effectivement, c'est vraiment le sport est au cœur de notre métier, de notre mode d'intervention. On a choisi le sport parce que c'était un véhicule fédérateur, universel, qui permettait vraiment de outrepasser des barrières et pouvoir entrer en contact avec des populations vulnérables. Plus encore, c'est un formidable vecteur de transmission de messages et d'éducation. Et dans des contextes très différents, nous avons mis en place des programmes d'éducation fondés sur le sport, mais qui permettaient de traiter des sujets prégnants comme la prévention VIH, les résolutions de conflits, la citoyenneté, ce type de sujet.
Alors, vous dites un formidable outil. En quoi il est formidable? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Parce que je crois comprendre que vous avez fait des études d'impact. Que révèlent ces études en l'occurrence?
Alors effectivement, c'est un formidable vecteur de transmission. On l'a mesuré, puisque sur l'un de nos programmes en Bolivie, dans le cadre d'un programme qu'on a mené avec le gouvernement bolivien, nous avons mesuré que le taux de rétention de l'information qui était transmis par le biais du sport était 10 fois supérieur à ce qu'il était dans le cadre d'une transmission plus classique du type salle de classe ou campagne de prévention classique. Donc lorsque les jeunes, les enfants sont actifs, lorsqu'ils apprennent dans un cadre ludique, c'est simple, ils retiennent tout simplement mieux le message.
Vous avez été en Bolivie, c'est vrai que vous avez un axe international privilégié, mais j'ai envie de dire, juste à côté de chez nous, il y a des enfants en difficulté dans ces quartiers des déficits. Est-ce que vous avez effectivement fait des études d'impact ou testé votre méthode, justement, c'est une méthode spécifique que vous avez développée?
Alors, historiquement, Sport Sans Frontières, à l'instar de ses cousines Médecins Sans Frontières ou Handicap International, intervient dans les pays en voie de développement, mais c'est effectivement des problématiques qu'on rencontre à côté de chez nous, dans les banlieues ou ailleurs.
Oui.
Et nous allons lancer au mois de janvier un programme pour adapter et dupliquer la méthodologie qu'on a mis en place dans des contextes très différents, l'adapter pour mettre en œuvre dans un contexte franco-français. Donc on va travailler avec les différents acteurs sociaux, les clubs sportifs, les instituteurs dans les écoles primaires, pour pouvoir leur offrir cette méthodologie et faire en sorte qu'il y ait une corde de plus à leur arc pédagogique.
Alors, restez avec nous, monsieur Blog. Monsieur Pierre-Hervé Gauthier, comment pensez-vous de cette méthodologie qui a été mise au point par cette association?
C'est un effort que l'on va faire tous ensemble avec le CAPES, puisque c'est l'objectif du CAPES, c'est d'aller un peu plus loin que ce que chacune association font.
Ouais.
Et nous sommes en train de travailler actuellement sur une méthodologie qui permet de mesurer l'impact éducatif des actions que toutes ces associations font.
C'est en effet. Vous le mesurez comment, justement?
Alors, on va le faire à partir d'un certain nombre de, pour chaque association, on va déterminer quels sont les critères en fonction de la discipline sportive. Par exemple, la stratégie du jeu, la concentration, le respect des règles, l'apprentissage d'une norme tennistique, etc. Et c'est très important pour les associations de pouvoir évaluer cet impact éducatif parce qu'elles ont besoin de moyens financiers.
Oui.
Et donc auprès des partenaires, c'est un argument très fort de leur dire, vous voyez, on ne fait pas ça pour rien. Et on prend le soin d'essayer d'évaluer en quoi il y a un progrès par rapport à l'enfant. Et donc, on mesure à l'état instantané, T, par exemple, T0. On regarde quelles sont les difficultés, les performances par rapport à un certain nombre de critères. Et ensuite, un an ou un an et demi après l'action, on regarde comment les choses ont progressé.
Monsieur David Blog, est-ce que, justement, vous avez les compétences, j'ai envie de dire, les formateurs, en l'occurrence, parce qu'on en était à parler tout à l'heure, de la problématique de la formation et de l'encadrement?
Oui, c'est la façon dont Sport Sans Frontières intervient. On est presque un sorte d'assistant technique puisqu'on s'appuie sur les acteurs locaux dans les pays dans lesquels on travaille.
Oui.
Et ces acteurs sociaux, on va les former à cette méthodologie. On met en place des programmes de formation très très précis. On met en on leur fournit des modules de jeu qui leur permettent d'intervenir sur différentes thématiques. Mais c'est aussi important que ce soit un échange, et on apprend aussi beaucoup de ces acteurs de terrain qui vont pouvoir adapter cette méthodologie aux besoins locaux. Je prends un exemple très précis. On intervient dans les camps déplacés en Haïti suite au séisme.
Oui.
On est arrivé avec quelques propositions, une formation qui a très rapidement été enrichie par des jeux traditionnels haïtiens, par les jeunes avec qui on travaillait, qui ont trouvé que cette méthodologie pouvait s'adapter aussi à ces jeux haïtiens qui parlaient beaucoup aux enfants. Qui a l'habitude de pratiquer ces jeux dans les camps déplacés à Port-au-Prince.
Alors moi je pense que là on est un peu loin de notre problématique, parce que si on parle des enfants ici des quartiers difficiles, on n'est pas dans des conséquences d'un séisme ou des enfants sinistrés, perturbés, traumatisés. Monsieur Pierre Hervé Gauthier, dites-nous quelle est la typologie des enfants dits en difficulté aujourd'hui dans les quartiers. Alors, quel est leur profil?
D'abord, vous savez qu'il y a plus de 2 millions d'enfants qui sont dits en difficulté en France, qui est quand même considérable.
Hein. Énorme.
C'est plus de 10% de la population qui entre de jeunes hommes. La plupart des difficultés viennent malheureusement des conditions économiques et sociales de leur famille.
Oui.
Et c'est pour ça que toutes ces associations ont un rôle fantastique. Et je crois que vous allez tout à l'heure interviewer quelqu'un, un responsable d'Apprenti d'Auteuil, qui a 10 000 enfants en France,
mm-hmm.
répartis sur tout le territoire. Et donc, je pense que ce profil est malheureusement un contexte familial, trop de chômage, pas assez de revenus, quelquefois
donc un cadre familial hostile,
un contexte familial hostile,
oui.
Et puis des difficultés, bien sûr, essentiellement économiques en fait, qui font qu'il y a un nombre croissant malheureusement d'enfants en difficulté.
Et alors, ça rend l'enfant vulnérable dans une posture de rejet, de marginalisation.
C'est un constat qu'ont fait beaucoup de sociologues, dont je voudrais en citer un. En
oui.
tout cas, c'est Olivier Galland qui a écrit un livre qui s'appelle « Les jeunes Français ont-ils raison d'avoir peur ?»
oui.
Dans la question, vous avez quasiment la réponse.
Oui.
Et qui montre qu'ils sont en marge de la société parce qu'ils n'ont plus de repères.
Mm-hmm.
Ils n'ont plus de repères éducatifs, ils n'ont plus de repères sociaux, ils n'ont mm-hmm. plus de repères religieux, ils n'ont plus de repères. Et donc, ces jeunes sont complètement laissés à l'abandon.
Désarticulés,
d'où le rôle fondamental que jouent ces associations qui recueillent ces enfants, soit complètement, par exemple, comme les apprentis d'Auteuil, soit par des actions spécifiques, comme vous avez vu le témoignage de Sports sans frontières, mais bien d'autres aussi.
Mais alors, quand on a ce type de population, en fait, de ces enfants, donc, dans ces conditions, est-ce que nous avons également le corps enseignant adéquat, j'ai envie de dire? Parce que, bon, il faut des formateurs formés pour ce type de population.
Alors, je pense que le corps enseignant est fondamental en France. Malheureusement, il n'est pas toujours aussi bien valorisé qu'il devrait l'être. Et d'ailleurs, aujourd'hui ou demain, il y a une grève qui montre qu'on n'a rien compris à l'enseignement, puisqu'on veut les faire apprécier par les directeurs d'établissements qui ne sont pas du tout des enseignants, mais plutôt des administratifs. Donc
oui,
ça
ne
va
oui.
pas du tout dans le sens de ce que souhaiteraient les enseignants. Il leur manque, je pense, une formation pluridisciplinaire.
Oui.
C'est-à-dire que chacun est dans son secteur, que ce soit l'histoire, la géographie, les mathématiques, etc. Mais je crois que s'il y avait une articulation pluridisciplinaire, et notamment qui intégrait les EPS, les professeurs d'éducation physique, et qui montrerait qu'il ne s'agit pas de transmettre un savoir bien précis, théorique, mais de faire une articulation entre chacune des disciplines. Aujourd'hui, on est dans un monde, on le dit tout le temps, mondialisé. Chaque discipline interfère sur chaque discipline. Il n'est pas normal que dans le cursus scolaire, il n'y ait pas cette organisation pluridisciplinaire et interdisciplinaire pour montrer la construction de ce que c'est qu'un jeune homme et un homme en devenir.
Alors, juste un mot avant de libérer Monsieur David Bloch, qui est donc le directeur de Sports sans frontières. Juste un mot, justement, quelles seraient vos recommandations pour améliorer un petit peu le niveau et puis la qualité de l'enseignement du système éducatif français aujourd'hui?
Dans le cadre du projet qu'on souhaite développer en France, on a été amené à discuter avec différents interlocuteurs. On a eu des échanges extrêmement intéressants avec les instituteurs d'écoles primaires en ZEP,
mm-hmm.
Qui sont à la recherche de nouveaux outils.
Dans les zones urbaines sensibles,
méthodes,
oui.
Qui leur permettent d'encadrer des jeunes qui sont souvent un peu turbulents, Et le sport et ce type de jeu qui permet d'appréhender les questions de citoyenneté, de discrimination, mais aussi d'hygiène, d'obésité, qui sont des vraies problématiques dans nos territoires.
Vous dites des enfants turbulents, rien d'anormal, hein, parce que bon, la tendance, j'ai envie de dire, même à créer un code pénal pour des enfants violents de l'âge de 12 ans, de 14, 15 ans. Est-ce que ces enfants sont dans la normalité?
Ah, il s'agit absolument pas de les stigmatiser. Ouais. Il y a certainement des écoles où les jeunes sont peut-être un peu plus turbulents que d'autres,
ouais.
Et où le sport peut être un moyen de transmettre un certain nombre de messages qui passent peut-être un peu moins bien dans les salles de classe.
Il faut pas se cacher que les apprentis d'Auteuil accueillent de la petite délinquance. Mm-hmm. Et d'ailleurs, leur claim, c'est de redonner une deuxième chance à l'enfant, c'est que certains, malheureusement, sont un petit peu en marge et font de la petite délinquance. Et donc, je crois que les activités sportives qui sont développées au sein de l'apprentis d'Auteuil montrent et illustrent très bien en quoi, en complément du cursus classique scolaire, les activités sportives permettent un facteur d'intégration d'apprentissage en complément de ce que l'école scolaire apporte.
Et nous allons justement, avant la fin de l'émission, entrer en contact avec les apprentis d'Auteuil, avec monsieur Étienne Aubin. En attendant, je remercie monsieur David Bloch pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes donc directeur de l'association Sport Sans Frontières. Merci. Alors, retour avec vous, monsieur Pierre-Hervé Gauthier. Effectivement, vous nous avez dévoilé un certain nombre d'idées, puisque dans votre guide, votre boîte à outils, il y en a une centaine.
Je voudrais rebondir sur une de ces idées, oui. Et qui est d'ailleurs le problème international. Le sport permet de faire des rencontres internationales,
oui.
Et de pratiquer des échanges de jeunes à partir de l'âge de 10-12 ans. Et ben, en France, on ne sait pas faire ça.
Oui.
On devrait beaucoup plus multiplier la possibilité, par exemple, il y a des partenariats qui se font entre les lycées, et donc de profiter de ces partenariats pour envoyer les jeunes dans différentes disciplines sportives, pratiquer une compétition entre eux.
Mmh.
Je vais au-delà aussi. Les mairies, la plupart de nos belles 36 000 mairies en France sont tous avec une autre mairie couplée, comme ils disent. Ben pourquoi ne pas profiter...
Oui, ils peuvent faire des jumelages avec...
Des jumelages. Mais pourquoi pas profiter de ces jumelages de ces mairies pour envoyer les jeunes faire n'importe quelle activité.
Dans les mairies riches et les mairies pauvres, hein, surtout.
Mais
hein,
il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour se déplacer. Hein. Vous pouvez aller en Belgique, c'est pas très loin, et vous prenez un car, et souvent, ils ont des moyens pour le faire.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un déficit d'idées, hein,
c'est un déficit d'idées. C'est un déficit d'idées, c'est un déficit de politique, c'est un politique de volonté. Et je crois que c'est parce que les gens n'ont pas l'initiative et ne prennent pas l'initiative de se dire avec le sport, mmh. on peut aller voir nos voisins et apprendre de nos voisins et en même temps leur faire pratiquer des activités sportives.
Donc c'est une de vos recommandations.
Ça fait partie de nos recommandations de multiplier et d'inciter des échanges internationaux grâce à la pratique sportive et en compétition.
Donc échange par exemple entre la mairie de Neuilly et Aubervilliers dans le 93.
Ça se fait pour certains. Par exemple, je soutiens une association qui s'appelle Rudban Attitude, qui organise justement dans le 93 et dans le 92 aussi des pratiques sportives, notamment liées au rugby. Donc ça peut se faire quand il y a une volonté
mais
politique.
Il faut rajouter que ça peut favoriser la mixité.
Ça favorise la mixité. Il suffit d'aller voir sur place. Ouais. Quand vous voyez deux jeunes pratiquer par exemple le rugby ou le football, il apprend d'emblée à respecter l'autre, il apprend ses règles de comment on joue au rugby.
Ouais.
Et comme le disait tout à l'heure Julien Jappert, il y a ou David Blo, tout de suite on apprend beaucoup plus vite que lorsqu'on vous donne sur un tableau noir une équation mathématique ou un aspect géographique ou de l'histoire.
Alors on en était à parler des apprentis d'Auteuil, rappelez-vous monsieur Pierre-Hervé Gauthier, et je crois savoir que nous avons avec nous effectivement le directeur du centre d'éducation de Sannois, qui est monsieur Étienne Aubin. Bonsoir.
Bonjour à tous.
Alors, c'est plutôt bonsoir parce que c'était du différé, hein.
D'accord.
Alors bonsoir monsieur Étienne Aubin. Justement, on en était à parler de ces enfants en difficulté, en l'occurrence les délinquants qu'on appelle, hein, délinquants, et vous en recevez quelques-uns. Alors dites-nous en quoi consiste votre mission et quel est votre cœur de cible.
Alors déjà, ce que je voudrais me permettre de rectifier, c'est le vocable que vous utilisez, les jeunes que nous accueillons ne sont pas des délinquants.
Oui.
Ils peuvent être sujets à des difficultés, certes, mm-hmm. des difficultés sociales.
Pas forcément des délinquants, oui.
Familiales.
Oui.
Il peut y avoir des tendances au passage à l'acte, mais en soi, ce ne sont pas des délinquants. D'ailleurs, nos établissements ne sont pas habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.
Tout à fait.
Alors, notre métier consiste à les accueillir dans des lieux adaptés, hein, des pavillons, des unités à taille humaine. On élabore avec eux des parcours personnalisés, de manière à leur redonner confiance, parce que c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent chez eux, le manque de confiance. On essaie de faire progresser au plan scolaire. On leur fait découvrir des métiers. Ici, à Sannois, c'est la menuiserie, c'est l'ébénisterie, le commerce également. Nous accompagnons leur insertion sociale et professionnelle. Et puis, comme nous sommes un établissement catholique appartenant à une fondation reconnue d'utilité publique, eh bien, nous leur proposons également un éveil spirituel.
Alors, en clair, ce sont des exclus du système éducatif. Qui sont-ils, ces jeunes, et d'où viennent-ils? De quel milieu?
Alors, le plus souvent, ils proviennent de milieux sociaux défavorisés. Pas toujours, mais le plus souvent.
Oui.
Hein, ils sont, d'un point de vue géographique, originaires du Val d'Oise, pour la plupart d'entre eux. Donc, sont des adolescents de 13 à 18 ans et qui sont, originaires du Val d'Oise, qui habitent souvent Argenteuil, Sarcelles, Villiers-le-Bel, etc.
Voilà, dans les banlieues. Quelle est la nature des difficultés qu'ils rencontrent, ces enfants, ces jeunes?
Alors, leurs difficultés, de mon point de vue, sont des difficultés, familiales, sociales, et bien souvent des difficultés scolaires. Quand je suis amené à les rencontrer dans mon bureau, je pense souvent à ce titre de l'ouvrage de Daniel Pennac qui s'appelle « Chagrin d'école ». Ce sont des gamins qui ont toujours été en difficulté au niveau de l'école. Si je devais reprendre l'expression de Coluche, j'aurais envie de dire que quand ils arrivent à Auteuil, ils sont souvent poursuivis par les études plus qu'ils ne veulent poursuivre des études.
Oui, mais enfin, ils sont en extrême fragilité, j'ai envie de dire, totalement détruits. Et votre méthode consiste justement...
Un manque de confiance en eux.
Un manque de confiance, oui.
Une estime d'eux-mêmes qui est effectivement détériorée la plupart du temps. Ils ont besoin d'être sécurisés.
Voilà. Ils arrivent dans cette situation, mais est-ce que vous avez les éléments d'explication? Pourquoi ils sont dans cette extrême fragilité? Est-ce que c'est dû aussi à un système éducatif qui les a broyés totalement?
Ah, je ne sais pas si on peut généraliser. En tous les cas, je fais partie des gens qui pensent que notre système éducatif... n'est pas suffisamment prêt, je veux dire comme ça, à accueillir des jeunes qui ont des modalités d'accès à l'apprentissage qui vont être différentes, ça c'est clair. Accueillir des jeunes qui, au plan comportemental, peuvent être un peu turbulents parfois. C'est clair que si vous voulez former des adolescents dans des classes avec 35 ou 40 élèves, qui présente ces caractéristiques-là, ça va être extrêmement compliqué.
Alors, on avait évoqué cette question, justement, d'où le terme délinquance, qui n'est pas approprié, et vous l'avez souligné à juste titre, quand vous dites un peu turbulent, rien d'anormal dans un enfant un peu turbulent.
Eh bien, écoutez, ils sont vivants, et ils s'expriment avec les moyens qu'ils
ont mis
leurs. Quelquefois, la turbulence en classe, c'est une manière d'indiquer que... les modalités pédagogiques ou
l'organisation
du travail ne leur conviennent pas.
C'est une réaction à un système, à quelque chose, quoi.
Alors, en tous les cas, moi, je pense que ça a valeur de message, effectivement. Je pense que le système a bien souvent été violent d'un point de vue symbolique avec ces jeunes, que ce soit dans leur quartier ou au moment de leur scolarité. Et qu'il peut arriver dans les classes ou dans nos établissements qu'effectivement ils ont des comportements quelque peu turbulents.
Voilà. Et du coup, chez vous, ils retrouvent en fait cette confiance perdue, ils retrouvent goût à l'école. Vous les accompagnez jusqu'à quel stade?
Alors justement, chez nous, ils ont la chance, et ça, sont principalement nos donateurs qui le permettent, puisque nos donateurs financent à hauteur de 50%. Nos établissements scolaires, ce qui nous permet d'avoir des effectifs à taille réduite, si vous voulez.
Oui.
On peut, je pense, moi je suis professeur certifié de formation,
oui.
Je pense qu'on peut d'autant plus facilement individualiser une pratique pédagogique que lorsque nous avons affaire à un groupe restreint d'élèves en classe.
Voilà.
Ce sont le plus souvent des groupes de 12 à 15 jeunes.
Une taille humaine, j'ai envie de dire, hein, voilà.
Pardon ?
Une taille humaine, vous dites 12.
Une taille humaine.
Voilà.
J'ai un rêve, c'est que tous les établissements de France et de Navarre puissent bénéficier d'effectifs à taille réduite, ce qui est malheureusement rarement le cas.
Alors, et nous caressons le même rêve, j'ai envie de dire, avec vous, monsieur Étienne Aubin. Merci de nous avoir éclairé sur ce que font les apprentis d'Auteuil. Et nous devons conclure avec vous, monsieur Pierre-Hervé Gauthier. Vous avez certainement une conclusion, ou peut-être vous voulez rebondir sur ce qu'a dit monsieur Étienne Aubin,
et ça oui, sera je vais le rebondir, mot de la fin. Puisque vous voulez qu'on conclue, moi je vais vous donner un récent sondage qui est paru dans Le Monde le 24 novembre 2011. 92% des jeunes pensent qu'il est plus difficile pour eux que pour la génération précédente de trouver un emploi oui. et de s'intégrer dans la vie active. Oui. Quand on voit de tels scores alarmistes, on se dit qu'il y a d'autres moyens que l'éducation classique. Et je pense que la conversation qu'on a eue aujourd'hui, ou ce soir, montre qu'il y a d'autres voies oui. et que c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et qu'il faut savoir associer cette pratique sportive. J'aurais aimé, je ne sais pas s'il a encore le temps de le faire.
30 secondes pour conclure. Non,
hein. Que M. Aubin nous donne un exemple concret peut-être
d'action. M. Aubin n'est plus avec nous malheureusement. Oui.
Il est parti. Oui. Mais par exemple, l'école de tennis que nous avons développée avec la Fondation Robert Abdesalam et la Fondation René Lacoste est une illustration parfaite qu'aujourd'hui 300 jeunes qui ne savaient rien au départ du tennis peuvent jouer maintenant une fois par semaine, encadrés par des professeurs. Et je pense que c'est des exemples très concrets comme ça qu'il faut stimuler et développer en France.
Alors nous pensons à tous les jeunes qui voudraient avoir accès à ces sports bourgeois entre guillemets dans les banlieues. Le tennis effectivement n'est pas une discipline favorisée, encouragée dans ces banlieues.
Ce sont plus des disciplines sportives. Maintenant, on peut pratiquer ça d'une façon avec des parrains, avec des entreprises qui aident, qui financent. Et donc tout le monde peut avoir accès. Et c'est ce qu'on appelle le sport pour tous, et qui n'est pas assez développé en France par rapport au sport d'élite qui permet de faire de l'image.
Voilà. Et c'était là le mot de la fin avec vous, Monsieur Pierre-Hervé Gauthier. Merci pour tous ces éclairages. Merci à tous les experts qui sont intervenus avec nous par téléphone. Merci à vous, amis auditeurs, de nous rester fidèles. Et bien entendu, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de Radio Orient.